Bonsoir, vous êtes bien sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope. Ce soir avec Nicolène qui va nous présenter une interview qu'elle a réalisée sur la situation des femmes kanak.
Oui, bonsoir. Je vous propose d'écouter une discussion que j'ai eue avec une copine kanak sur un peu la situation des femmes kanak à la fois dans leur monde coutumier et à la fois en situation coloniale. Alors, discussion, en fait, on l'a fait alors que j'étais en Kanaky. Alors il y a un peu des bruits de fond. Vous entendrez sûrement les bruits du vent, le bruit un peu des feuilles de cocotier, des margouillas, des insectes qui viennent faire des drôles de bruits dans le micro, et aussi de ces enfants, enfin des enfants de Wally qui ronflent. Donc voilà, je vous propose d'écouter ça ce soir et bonne écoute.
Je suis Wally, Tétuanui, et Hélène et moi, Hélène Nicolas, on va faire une émission sur la condition des femmes de l'Ifou, qui est une petite île de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaky.
Et Wally et moi, on est dans la case en ce moment. Il y a ces deux enfants qui dorment et on est donc sur cette petite île de l'Ifou. Est-ce que tu peux parler un peu de l'Ifou, Wally ?
Alors, je vais commencer par parler de la case, d'abord là où nous sommes en ce moment, qui est une case ronde et qui symbolise, je crois, le plus la coutume qu'il y a ici au Kanaky, en Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement ici à l'Ifou. Alors, je crois que ça y est, on a dit qu'on était en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a une coutume chez les gens du pays, les Kanaks, et la case, elle, Elle est ronde et au milieu, il y a un poteau central qui symbolise les chefferies ou le grand chef et tout autour, les sujets. Et on dit toujours que s'il n'y a pas de poteau central, tout s'écroule parce que le grand chef est, le chef ou le grand chef est important et tous les sujets sont importants aussi parce que s'il n'y a pas tous les poteaux autour, la case n'a pas lieu d'être aussi. Enfin, elle s'écroule également. Donc, ça c'était pour parler de la coutume.
Tu peux présenter un peu quelle est
Pardon.
ton origine, puis qui tu es ici un peu.
D'accord. Alors, je m'appelle Tétuanu parce que je me suis mariée avec un Tahitien, mais je suis d'origine Kanak, de l'Ifou. Ce sont les autochtones de la Nouvelle-Calédonie. Je viens du sud de l'Ifou, d'une tribu qui s'appelle Kében, du clan Géoul et de la famille Waïcha. Et mon père est le chef du clan Géoul. Et je suis la seconde d'une fratrie de 9 enfants.
Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est une tribu?
Alors une tribu, comme il y en a plein ici en Nouvelle-Calédonie, et particulièrement ici à l'Ifou, c'est un ensemble de familles, de clans, où il y a forcément une église et une école. Et donc une tribu, ici en Calédonie, c'est une tribu Kanak, forcément aussi, où toutes les familles, enfin c'est un regroupement de familles et de clans.
Et qu'est-ce que c'est un clan?
Un clan, c'est un ensemble de familles. Donc une tribu, c'est un ensemble de clans, et un clan, c'est un ensemble de familles. Et à la tête de chaque clan, il peut y avoir une famille ou plusieurs familles dans un clan. Et à la tête de chaque clan, il y aura un chef de clan. Et il peut y avoir plusieurs noms de famille dans le même clan, où il y aura donc un nom aussi du clan. On saura que tel groupe de famille appartient à tel clan. Par exemple, dans le mien, qui s'appelle, mon clan s'appelle Géoul, il y a la famille Sawaza, la famille Wahecha et la famille Sidjen et la famille Naoudine. Donc il y a 4 clans. Et mon père, qui est le chef de clan, est respecté de toutes ces familles-là. Est-ce que
D'accord.
c'est clair?
Oui, je crois. Et par rapport, on dit qu'à l'Ifou, il y a trois grandes chefferies. Et par rapport aux grandes chefferies, quel rapport ont les chefs de clan avec les grandes chefferies?
Alors, il y a plusieurs formes de rapports parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes rapports avec les chefferies. Il y en a qui ont des rapports directs avec la chefferie, comme mon père par exemple, qui ne passe pas par le chef de tribu. Parce que tout à l'heure on parlait de chef de clan, mais chaque tribu aussi a son chef, qu'on appelle le petit chef. Donc quand on dit le petit chef de tel endroit, c'est forcément un petit chef de tribu. Donc normalement, dans la hiérarchie, il y a d'abord le grand chef de district, dont tu parlais il y a 1 minute, et après il y a le petit chef de la tribu et le chef du clan qui est dans la tribu. Mais les chefs de clan, ils n'ont pas tous les mêmes rapports avec la grande chefferie. Ils peuvent avoir des rapports directs avec la grande chefferie, ou alors ils sont derrière le petit chef qui, lui, a un rapport direct avec la grande chefferie.
Et est-ce que les chefs sont plus riches que les autres ou ont plus de terres?
Ils peuvent être plus riches, ils peuvent avoir plus de terres, mais c'est pas systématique. Il y en a qui sont. C'est pas parce qu'on est chef qu'on est forcément plus riche. Et c'est pas parce qu'on est chef qu'on est forcément propriétaire de beaucoup de terres. Il y en a qui sont. Il y a des sujets qui ont plus de terres, qui sont véritablement des propriétaires terriens. Et qui ont beaucoup plus de terres, qui possèdent beaucoup plus de terres que les chefs. Et d'ailleurs, souvent on dit qu'ici à l'Ifou, les chefs sont souvent nommés, c'est souvent des gens qui arrivent d'ailleurs et qui ont été nommés dans les tribus ou dans les districts pour être les chefs, pour éviter les conflits entre les chefs de clan et entre les fratries. Donc souvent on nomme des étrangers pour être des chefs. Voilà.
Et ça fait qu'il y a une certaine indépendance des clans, une certaine autonomie, non?
Oui, ça leur donne une certaine autonomie, puis ils sont conscients de leur pouvoir aussi parce qu'ils ont des terres. Et du coup, tout le monde se respecte. Le chef, il sait qu'il doit respecter les sujets parce qu'ils ont aussi leur mot à dire parce qu'ils sont propriétaires terriens. Et les sujets, ils respectent aussi leur chef parce que c'est eux qui l'ont nommé. Et il y a ce respect qui est ancestral qui change pas avec ou qui change très peu avec le temps.
Et j'ai encore deux questions. C'est est-ce qu'il y a des femmes qui sont chefs de clan ou est-ce que c'est que des hommes?
Alors, c'est aussi la particularité de la société Kanak, c'est que la femme, elle ne prend pas de pouvoir. Même si le chef ou la grand chef, un petit chef ou un chef de clan ou un grand chef a une seule fille héritière, elle ne prendra pas le pouvoir. Ça sera toujours son cousin ou ça sera toujours un garçon qui va prendre le pouvoir. Ça sera jamais une femme. Donc, elle sera respectée, on saura que c'est la fille du chef, par exemple. Mais ça sera quelqu'un d'autre qui sera à la tête, par exemple, qui sera nommé chef ou petit chef. Mais une femme ne prendra jamais le pouvoir, quoi.
Et est-ce qu'il y a des gens à Lifou qui sont pauvres, qui n'ont pas de toit ou pas de moyens de cultiver la terre?
Cultiver la terre, tout le monde a les moyens parce que tout le monde dispose d'une terre. Ici, il y a cette particularité aussi que c'est que tout le monde a sa place dans la tribu. Personne ne peut dire, ah, j'ai aucun endroit pour faire mon champ, j'ai aucun endroit pour faire ma case ou ma maison. Donc, on ne peut pas vraiment parler de pauvreté. Parce que la terre, elle est assez bonne, elle est bonne. On peut cultiver pour vivre. Si vraiment on n'a pas de salaire, on peut vivre avec ce qu'on produit de la terre. Et tout le monde a droit à ça, ici à Lifou.
Avant de parler plus précisément de la condition des femmes ici, je pense que ce serait bien qu'on parle un peu de l'histoire de ce pays, parce que Lifou, en France, on connaît pas trop, mais en fait, c'est encore une colonie française. Est-ce que tu peux résumer un peu l'histoire de la colonisation en Kanaky?
Ben, tu l'as dit, c'est encore une colonie française, elle a été colonisée.
Au 19e siècle.
Non, 19e siècle, on va dire, pour pas dire de bêtises. Et depuis, c'est le français qui est la langue véhiculaire de ce pays, parce qu'il y a 27 langues, c'est ça, vernaculaires, et on communique avec les autres îles en français. L'école, elle est française, on est français avec la colonisation. Et il y a eu, depuis Tibao et peut-être même avant, la lutte pour la dépendance chez les Kanaks. Et en 1988, vous avez certainement dû entendre parler des événements en Kanaky, en Nouvelle-Calédonie, à la suite de quoi le leader Kanak, Jean-Marie Tjibaou, est décédé en 1989.
Et quelle est la différence entre la colonisation? Enfin, en Nouvelle-Calédonie, il y a une grande île qui s'appelle la Grande Terre. Il y a les îles Loyauté autour. Et moi, j'ai entendu dire que la colonisation était très différente sur la Grande Terre et sur les îles. Tu peux expliquer un peu?
Oui, alors la colonisation française s'est surtout ressentie en Grande Terre. C'est surtout là-bas qu'il y a eu on va dire, des injustices où les tribus Kanak ont été refoulées, des tribus ont été décimées, et où il y a eu vraiment des violences, quoi. Mais dans les îles, c'est-à-dire les trois îles Loyauté, Lifou, Maré, Ouvéa et Tiga, une toute petite île, on a moins ressenti l'impact de la colonisation, enfin, du moins, on n'a pas ressenti les violences qu'ont connues les gens de la Grande Terre, les Kanaks de la Grande Terre. C'est pour ça que on voit aussi une différence dans les luttes indépendantistes. Chez les Kanaks de Grande Terre, ils se sentent beaucoup plus concernés, ils sont beaucoup plus anti-français dans les luttes indépendantistes. Et puis dans les îles, comme les gens, ils ont peut-être moins vécu la présence française et puis les violences de la colonisation française, ils sont beaucoup plus diplomates. Mais c'est vrai qu'en Grande Terre, et on est très solidaire aussi dans les îles, en Grande Terre, les gens ont beaucoup souffert de la colonisation française.
Une des grosses différences moi que je vois entre les deux colonisations, c'est que en Grande Terre, il y a la plupart des terres qui ont été volées. Les terres étaient au Kanak, bien sûr, avant que les Européens arrivent, les Français. Et il y a eu des terres qui étaient bonnes, les terres étaient bonnes pour l'élevage ou l'agriculture ou même pour des mines. Et il y a eu le gouvernement français a considéré que la terre était vierge et bonne à prendre pour les colons qui voulaient s'y installer. C'était une colonisation de peuplement. Alors que sur les îles, comme c'est des îles coralliennes, qu'il n'y a pas de rivière, c'est pas possible de faire de l'élevage intensif ou alors de l'agriculture vraiment intensive. Les Français se sont relativement vite détournés en fait des
Des
îles
îles Loyauté.
Loyauté. Et en plus, il y a une particularité, c'est que les îles Loyauté étaient christianisées déjà depuis 40 ou 50 ans quand les Français sont arrivés. Tu connais un peu l'histoire de la christianisation ici, comment ça s'est passé ou...
Ça a été au niveau de l'IFU, du moins je peux en parler un petit peu. C'est que c'était des protestants de Tonga qui sont arrivés avec la Bible dans le sud, c'est-à-dire dans mon district, là aussi, et qui ont proposé la religion protestante. C'est pour ça que dans le district de là aussi, dans le sud de l'IFU, toutes les tribus sont protestantes. Parce que souvent, après, ici, toujours dans l'île de Lifou, dans les autres districts, il y a eu aussi des missionnaires catholiques qui sont arrivés. Donc, il y a aussi des tribus catholiques. Et ça se passait comme ça. Celui qui arrivait, le missionnaire arrivait, il s'adressait directement au chef, au grand chef. Il se renseignait où était le grand chef et il allait proposer sa religion au grand chef, qu'il imposait ensuite, qu'il a proposé, mais comme tout le monde le respecte. Tout le monde l'adoptait après. Donc il disait, si par exemple à Gaïcha, ils sont venus voir le grand chef Zéoula, et la plupart des tribus de Gaïcha sont catholiques.
D'accord. Ça fait que la christianisation, c'est pas fait par les armes ou par une violence.
Je pense que ça s'est passé comme ça aussi, parce que à cette époque-là, les gens, les Kanaks étaient encore un peu cannibales. Donc il y a eu des histoires comme quoi beaucoup de gens ont été mangés à cette époque-là, qui sont arrivés. Oui, on a changé un peu depuis. Mais je pense que ceux qui ont résisté, c'est vraiment ceux qui sont arrivés par la suite, quoi. C'est après plusieurs arrivées de missionnaires. Je ne pense pas que le premier qui est arrivé, c'est celui qui a réussi à nous faire adopter, qui a réussi à leur faire adopter aux ancêtres sa religion. C'était peut-être je sais pas, le centième ou le cinquantième de la liste. Les premiers, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais je suis sûre que les premiers n'ont pas dû avoir la tâche facile.
Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'IFOU, c'est un territoire français, mais c'est une réserve intégrale, avec donc une propriété coutumière sur toute la terre, quoi, de l'IFOU. Et c'est une île chrétienne.
Voilà,
Tout
en
le monde est
résumé, c'est
chrétien
ça.
ici.
Tout le monde est chrétien, normalement. Oui. Et ça, c'est un peu la particularité des îles de l'Océanie, c'est que les gens sont assez chrétiens. C'est encore assez fort, quoi, le christianisme, catholique ou protestant.
D'accord.
À peine la vingtaine, et ma mémoire est pleine à craquer de trucs de barge que j'ai vu malgré moi et qui m'ont marqué. Ayant grandi là où tout gosse, ça se tranche les veines, ça mendie la mort. Heureusement, souvent cette manche est vaine. Ça se mange chez vert, j'ai vu des gosses violés par leurs parents. J'ai vu des juges injustes et des éducateurs violents. J'ai vu ce gosse de foyer, le crâne ouvert, tapé par des flics. J'ai vu ce prof pleurer sa mère, frappé par des petits. J'ai vu la ville courir dans tous les sens, chargée par un troupeau de CRS. J'ai vu ces jeunes à terre se faire matraquer la tête. J'ai vu ces mafieux régler leurs comptes à coups de fusil à pompe. J'ai vu ce faux caïd se la jouer, puis se taper la honte. J'ai vu ce tox traîner une mamie, ou des dealers d'héros pour chasser une môme, voulant faire d'elle une momie. J'ai vu la justice se tromper, enfermer des innocents. J'ai vu trop tôt que ce monde était tordu et qu'il aimait trop le sang. Ne me dites pas que ce monde est droit, mesdames et messieurs. Venez voir là où la réalité veut nous crever les yeux. J'ai vu trop jeune ces fragments néfastes, grâce à Dieu. J'ai oublié le pire, mais trop d'images ne s'effacent pas. Ne me dites pas que ce monde est droit, à moins de faire preuve de mauvaise foi. Son beau reflet, c'est ici qu'on le voit. Donc venez voir la folie que ce monde engendre et veuillez enlever vos œillères. Attention aux images choquantes. J'ai vu des adultes pousser des gamins dans la rabla. J'ai vu le cadavre des droits de l'homme assassiné par des blablas. J'ai vu les cachetons qui aient des gens sains. J'ai vu des anciens faire travailler des petits ou mettre des petites enceintes. J'ai vu ce toxin manque pointer une seringue sur un passant, le menaçant de lui injecter le sida pour son argent. J'ai vu l'homme saccager la nature aussi vite qu'un pote tué en scooter à cause d'un ivrogne en voiture. J'ai vu qu'entre quatre murs, l'envie de meurtre peut devenir humain. J'ai vu qu'on peut tuer un homme d'une main. J'ai vu des gars obscurs manipulant en prêchant. J'ai vu la magie noire changer complètement des gens. J'ai vu Mielman à pleurer de leur avenir incertain, ou des petits sniffés de la colle dans les bidonvilles argentins. J'ai vu mon pays se faire piner impunément par l'Occident. J'ai vu tiers monde crier vengeance. Ne me dites pas que ce monde est droit, mesdames et messieurs. Venez voir là où la réalité veut nous crever les yeux. J'ai vu trop jeune ces fragments néfastes, grâce à Dieu. J'ai oublié le pire, mais trop d'images ne s'effacent pas. Ne me dites pas que ce monde est droit, à moins de faire preuve de mauvaise foi. Son beau reflet, c'est ici qu'on le voit. Donc venez voir la folie que ce monde engendre et veuillez enlever vos œillères. Attention aux images choquantes. J'ai vu ce clochard se faire goumer par des petits cons. J'ai vu la folie de la vengeance quand y a vraiment plus rien qui compte. J'ai vu des frangins s'entretuer, aveuglés par l'orgueil. J'ai vu que ce monde n'est fait qu'opportunistes qui ne pensent qu'à leur gueule. J'ai vu des pédophiles ne prendre que 3 mois. Où cette sœur en pleurs me disant s'être fait violer par un ex-frère à moi. J'ai vu à cause du shit certaines s'égarer. J'ai vu cette petite conne séquestrer une vieille à coups de chlasse pour se marrer. Ce jeune sautait dans le vide lors d'un bad trip. J'ai vu ces geeks partir en guerre pour la fierté de leur patrie. J'ai vu la cruauté se faire vouvoyer, ou des petits en hôpital psychiatrique juste parce qu'ils n'avaient plus de foyer. J'ai vu la démocratie devenir une élitecratie, ou plutôt une élite crasseuse qui nous ordonnait d'être assis. J'ai vu des mineurs se prostituer dans la rue, ou ce petit en sang entouré de flics criant youpi on l'a eu. Ne me dites pas que ce monde est droit, mesdames et messieurs. Venez voir là où la réalité veut nous crever les yeux. J'ai vu trop jeune ces fragments néfastes, grâce à Dieu. J'ai oublié le pire, mais trop d'images ne s'effacent pas. Ne me dites pas que ce monde est droit, à moins de faire preuve de mauvaise foi. Son beau reflet, c'est ici qu'on le voit. Donc venez voir la folie que ce monde engendre et veuillez en...
Alors, parlons maintenant de la place des femmes kanak dans la société kanak traditionnelle. Alors, ce qui est clair et ce qu'il faut retenir déjà, c'est que les femmes kanak n'ont pas de pouvoir. On a l'habitude de dire qu'elles doivent être toujours derrière l'homme. Et d'ailleurs, en général, quand les couples marchent, la femme, elle se tient toujours derrière son mari. C'est très symbolique. Parce que dès sa naissance, le début de son éducation, c'est-à-dire vers la puberté, on commence à lui dire, et puis même un peu avant, que sa place, ça sera toujours derrière son mari, c'est-à-dire qu'elle lui doit le respect et qu'elle doit le servir, être une bonne épouse et une bonne mère. Donc son rôle, c'est plutôt le rôle de la femme. Au foyer, quoi, s'occuper des enfants, avoir des enfants, déjà ça c'est un rôle très important. Il faut qu'elle ait beaucoup d'enfants parce que dans un clan et dans une famille est considérée comme riche quand il y a beaucoup d'enfants, surtout des fils et des filles aussi. Donc elle doit faire des enfants, elle doit bien s'occuper de la maison, bien s'occuper aussi de son mari qui est presque, pour les vieux, le mari a... est presque comme un dieu, quoi. Il faut bien le traiter, il faut bien le soigner, il faut bien le nourrir et surtout le respecter. Ça, c'est son rôle. Ça, c'est au niveau des femmes. Et les hommes, eux, c'est plutôt au niveau des... Oui, les tâches sont très sexuées. Les hommes, ils s'occupent des champs, c'est-à-dire le débroussage, couper les arbres. Et après, ils labourent, ils font les trous, les sillons pour les ignames. Et les femmes, elles plantent plutôt les ignames. Ça, c'est au niveau des tâches quotidiennes et traditionnelles. Elles plantent et tous les deux peuvent mettre les tuteurs. Mais il y a toujours cet aspect particulier de la femme par rapport à l'homme. C'est que même au niveau des champs, elle n'a pas le droit d'y aller quand elle a ses règles, par exemple. Ou quand... oui, surtout quand elle a ses règles, elle n'a pas le droit d'aller parce qu'on dit qu'après les ignames, elles vont mourir. Mais elle peut les planter aussi, elle peut mettre les tuteurs. Les hommes, ils les déterrent ensuite, 6 ou 7 mois plus tard. Surtout quand ce sont des gros ignames, les femmes aussi peuvent déterrer. Donc c'est la cuisine, les champs, les hommes au niveau des mariages, qui est aussi un fait social ici. En Kanaki, des grandes cérémonies où il y a beaucoup de travail. Alors les hommes, eux, ils s'occupent du bétail à tuer, des animaux à tuer, de la viande. Ils tuent et les femmes font les bunya, qui est le plat traditionnel de l'Ifou et de Kanaki en général. Elles s'occupent du bunya, mais les hommes s'occupent de tuer le bétail, les animaux et de... chercher du bois pour le four kanak traditionnel, le four caillou. Voilà, il y a plein de petites tâches comme ça qui sont plus spécifiques à l'homme et d'autres plus spécifiques à la femme. Voilà, mais en général, on va dire que les femmes kanak, dans la société traditionnelle, elles doivent obéissance et respect à leur mari. Quand elle est petite fille, elle est considérée, quand elle est bébé jusqu'à la puberté, elle est considérée comme les garçons. Les petits garçons, elles jouent les mêmes jeux, elles font les mêmes choses. On ne fait pas de distinction vraiment entre les filles et les garçons. C'est seulement à la puberté qu'on commence à lui faire comprendre qu'il faut qu'elle s'habille autrement et surtout qu'elle couvre son corps, qu'elle doit savoir tenir une maison, qu'elle doit savoir parler, qu'elle doit... savoir respecter les garçons en se baissant devant eux, qu'elle doit s'occuper d'eux, nettoyer leur linge, de ses frères par exemple. Elle doit le respect déjà aux hommes de la famille pour la préparer plus tard pour son rôle d'épouse et de mère. Et après, une fois qu'elle est une bonne épouse et tout, elle devient vieille et là elle acquiert un autre statut qui est le statut des huachefe, c'est-à-dire des vieilles. Et là elle a un statut bien à part, elle a un peu plus de pouvoir. Elle peut prendre la parole, parce que jusqu'à cet âge-là, elle n'a pas le droit de prendre la parole pendant les réunions coutumières. Mais quand elle sera vieille, elle aura le droit de prendre la parole. Elle aura toujours moins de droits que les hommes et les plus jeunes hommes, mais elle aura quand même le droit de prendre la parole parce qu'elle a, elle a le privilège de, des femmes âgées. Parce qu'ici, en Kanaky, on respecte beaucoup les personnes âgées. Ils ont beaucoup plus de... On les respecte et puis on leur donne le droit de parole. Et on dit qu'ils sont sages et qu'il faut les écouter. Donc on les écoute.
Oui, oui, parce qu'il y a, y a aussi... moi, ce que j'ai observé, c'est comme grosse division des tâches, c'est que les hommes s'occupent de toutes les affaires coutumières, donc toutes les réunions, et parlent toute la parole dans les mariages. Par exemple, dans les mariages, en fait, c'est des grandes cérémonies pendant qui durent une semaine, 10 jours. Il y a beaucoup d'échanges qui se font... à la fois de bien puis à la fois de parole. Et on voit que c'est tout, c'est uniquement des hommes et des hommes mariés qui parlent dans ces occasions-là, ou même pendant la fête de l'igname ou pendant toutes les fêtes qui concernent les chefferies, ce sont uniquement ou quasi uniquement des hommes, avec de temps à autre quelques vieilles femmes qui parlent.
Oui, en général on va dire que ce ne sont que les hommes qui prennent la parole. Les vieilles vont peut-être parler une ou deux fois quand vraiment c'est juste pour compléter ou c'est juste pour dire, repréciser certaines choses, mais quand vraiment il faut prendre les... quand ce sont des vraies réunions coutumières comme à la fête de l'igname, comme dans les vrais discours coutumiers dans les mariages, seuls les hommes ont le droit de parler. La vieille, les vieilles, elles parleront que s'il n'y a plus d'hommes dans la salle ou quand vraiment on les a sollicités pour parler, mais elles ne se lèveront jamais pour faire un discours. Ou alors elles vont le faire, mais assises ou à genoux.
En fait, tout ce qui est gestion politique est uniquement masculin.
Voilà, c'est une affaire des hommes. Ça, c'est clair. Et la coutume veille à ce que ça reste comme ça. Et on éduque les filles pour qu'elles ne prennent pas la parole, pour qu'elles n'interrompent pas les hommes et pour qu'elles se taisent simplement pendant les réunions coutumières. Quand une femme prend la parole pendant les réunions coutumières ou même seulement pendant les réunions de la tribu ou n'importe où, on va... Il y a beaucoup de gens seront agacés, surtout les hommes, et même les vieilles, beaucoup de gens seront agacés. Parce qu'on va dire que elle a outrepassé ses droits, elle a manqué de respect, et on va dire que c'est une femme pichou qui veut dire une femme qui n'a aucun respect et qui n'a pas d'éducation.
Donc c'est très difficile, même si pour des femmes qui auraient envie de parler, de parler.
Oui, même si elles auront envie de parler, elles ne parleront pas. Elles parleront peut-être à d'autres moments, en intimité avec leurs hommes, mais pas pendant la réunion coutumière. Elles n'oseront pas le faire.
Et quels droits ont les femmes sur le foncier? Sur la propriété de la terre, la gestion de la terre?
Ça aussi, c'est une affaire des hommes aussi. La propriété foncière. Une fille... Quand elle se marie, elle quitte le clan et la famille de ses parents pour épouser un homme d'un autre clan, d'une autre famille, et appartenir à cette famille, à cet homme, à cette famille, à ce clan et à ses autres terres. Donc elle aura la terre de son mari. Mais elle n'aura plus aucun droit sur les terres de ses propres parents à elle, qui n'appartiendront qu'à ses frères ou ses cousins. Donc la terre appartiendra toujours aux hommes de la famille. Dans une fratrie, ce sont les frères qui vont se partager les terres. Ils ne seront pas propriétaires de la terre, parce que si tout le monde est propriétaire de la terre, ben, tous les garçons, ils ne vont pas dire, voilà, ce coin-là est à moi personnellement. Non, ils vont se les partager, mais que les hommes. Les filles, elles vont... On dit toujours que les filles vont s'en aller de toute façon, et quand elles s'en vont, elles n'ont plus aucun droit sur les terres de leur père.
Et tu disais qu'un de leurs rôles principaux, c'est de faire des enfants et en grand nombre. Et est-ce qu'elles ont des droits sur les enfants? Parce que là, tu as dit qu'elles héritaient de rien. Et à qui appartiennent les enfants?
Les enfants, c'est pareil. Ça appartiendra toujours à la famille du père, qui est dans la société kanak, donne le nom aux enfants. Et le nom... chez nous, ici en Kanaky, c'est très important. C'est le père qui donne le nom à ses enfants et qui leur donne leur identité, qui va dire, qui fera que ben, ces enfants lui appartiennent à lui, à ses parents, à sa famille et à ses terres. La femme, elle n'a pas le, elle n'aura aucun droit sur les enfants parce qu'on va toujours dire, même ses propres parents à elle vont lui dire, mais ce sont les enfants de ton mari. Même si un jour elle quitte son mari, ce qui peut arriver, c'est toute sa famille va toujours lui dire que les enfants appartiennent à son mari. Parce que c'est le père qui donne le nom, qui donne les terres, et elle, elle donne le sang, ce qui est très important aussi, elle donne la vie. Mais quand au niveau de l'identité des enfants, au niveau foncier, au niveau de tout, on va dire que ces enfants-là appartiennent d'abord à leur père, et beaucoup moins à leur mère.
يا نسا الكلام ما كفاش لازم نقطع الودان العدل ما يسواش كي غيب الميزان يا ناس الجزائر غطاو الشمس بالغربال نحاجيكم يا بنات عشرين سنة هبال كانوا متفاهمين سرقوا حق نسا وخرجوا مهنيين داروا رايهم حسبونا من الغافلين
واش رداك يا غالي واش رداك خاف مني وفر كل موسم تاني ما فيه السم واش رداك يا غالي واش رداك خاف مني وفر
des gazelles.
1 000 euros ma soeur, alors on te rappelle.
Écoutez la chanson, elle ne changera pas d'air.
Et qu'on se le dise,
cette loi est à défaire.
À ne plus jamais faire.
À ne plus jamais faire.
Et qu'on se le dise,
cette loi est à défaire.
À ne plus jamais faire.
Yeah.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'était un morceau qui s'appelle 20 ans Barakat. C'est un morceau qui est fait par des femmes algériennes sur le code de la famille, qui dit « ça suffit, le code de la famille ». Et c'est un morceau qu'on avait envie de mettre ici parce que dans les peuples qui ont été colonisés ou qu'ils sont encore, comme en Algérie ou en Kanaky, souvent c'est un argument des hommes qui sont au pouvoir, que ce soit dans les partis indépendantistes ou au pouvoir des États, de faire appel à une tradition en disant voilà, les femmes, il ne faut pas qu'elles revendiquent une égalité parce que c'est quelque chose d'occidental ou de français. Alors que voilà, la tradition, c'est comme ça, et le statut des femmes est très bas dans la tradition, et c'est comme ça qu'on doit vivre, quoi.
Ouais, puis c'est du coup aussi un truc à l'inverse qui est utilisé dans des pays occidentaux, de dire non, mais pourquoi encore vous parlez de féminisme ou revendiquer des droits, parce que regardez ces pauvres femmes dans tel et tel pays, c'est ça qui est important, maintenant en France tout est acquis. Enfin, j'utilisais ça aussi dans un discours colonialiste et raciste dans les pays occidentaux, l'égalité homme-femme est acquise et les vrais combats sont ailleurs pour ces pauvres femmes opprimées. Enfin, du coup, c'est un truc en fait qui est utilisé dans les deux sens, quoi, pour contre les femmes, en fait.
Ouais. Et les autres morceaux qu'on a écoutés, c'était Kenny Arcana et.
Eh ben, dans l'ordre, en premier, du coup, entre les interviews, on avait un morceau de la chorale anarcha-féministe suédoise qui s'appelle Feminismen, et ensuite, ouais, Kenny Arcana, venez voir.
Voilà. Ben, on va écouter maintenant la suite. De la discussion avec Wally, une femme kanak, qui nous parle un peu de comment ça se passe chez elle.
D'un côté, là, on a vu que les femmes donc, avaient un statut assez... Enfin, comment dire ?
Non, pas vraiment de statut, on va dire. Hein.
Voilà, elles n'ont pas accès à grand-chose, on va dire, socialement.
Mm-hmm.
Dans la coutume, mais quelque chose qui est très fort ici, c'est la religion chrétienne. Et moi, je me demandais quel impact a eu justement la christianisation sur le couple, l'organisation du couple, l'organisation sociale homme-femme, quoi.
Ben, je crois qu'elle a contribué encore plus à ce que la femme respecte son mari, et surtout au niveau peut-être de la fidélité, parce que je crois qu'au niveau des ancêtres avant, il y avait la polygamie. Et avec la christianisation, la femme doit être fidèle maintenant à son mari et le mari doit être fidèle à sa femme. Il y a ça et puis il y a toujours le fait que ben, il faut que la femme respecte son mari et qu'elle respecte aussi le pasteur, qu'elle respecte tout le monde dans la tribu. Et je pense pas que ça a beaucoup changé sa condition.
Mmh.
Non. Non, elle ne lui donne rien de particulier, à part qu'elle doit mieux s'habiller. Je pense qu'avant, elle n'était pas du tout couverte. Avant, les ancêtres, elles étaient juste en pagne, les seins à l'air, et puis juste une petite jupe, c'est tout. Mais maintenant, ben, je crois qu'avec la christianisation, il y a eu la popinée, qui est la robe nationale ici à Kanaky, et qu'il faut mettre avec des jupons, avec des combinaisons. Et que les vieilles mettent, toutes les vieilles ici à l'IFO mettent cette robe. Je crois que ça, c'est un apport de. D'ailleurs, on l'appelle la robe mission, parce que ce sont les missionnaires qui l'avaient apportée. Donc, ça peut-être que la christianisation a habillé la femme kanak, on va dire. Et puis, je pense pas qu'elle ait apporté plus au niveau de sa condition.
Oui, puis il y a eu l'interdiction de séparation aussi avec la christianisation. Parce que on voit dans les histoires des vieux que des femmes avant pouvaient se séparer de leur mari s'il y avait des problèmes, ou même il y a des histoires où des femmes partent parce que leur mari est violent. Alors que depuis tout le dernier siècle, c'était interdit de divorcer.
Mmh.
Et puis je crois qu'ils ont lutté aussi contre les la contraception, parce que les vieilles femmes connaissaient des contraceptions naturelles, quoi, avec les plantes. Et ça a été interdit d'utiliser aussi par les missionnaires.
Oui, c'est vrai. Ben oui, ben maintenant, elles n'ont pas le droit de divorcer. Ça, c'est à cause de la christianisation, ça c'est clair. Mais il y a la coutume aussi qui est interdite. Parce que avant de divorcer, on est obligé de demander au grand chef si on a le droit ou pas. Il y a le conseil coutumier, donc il y a la coutume, il y a la religion aussi qui l'interdit. Et d'ailleurs, ici, la religion et puis la coutume vont un peu de pair, quoi. Ils s'entendent bien, ils ont les mêmes règles maintenant. Au niveau des divorces, au niveau de la condition des femmes, en général, ils ont les mêmes règles. C'est-à-dire que l'homme, la femme, elle doit... Les femmes, elles doivent servir l'homme, elles doivent l'écouter. L'homme aussi, il doit écouter sa femme, mais bon, c'est lui qui est maître un peu des décisions importantes dans le couple.
Oui, moi j'ai entendu deux dictons. C'est d'un côté, des pasteurs me disaient que dans la religion chrétienne, dans les religions chrétiennes, que l'homme, dans le couple, l'homme c'était la tête et la femme le corps. Donc c'était l'homme qui dirigeait, quoi. Et, en gros, la femme qui travaille.
Oui.
Mais, et il y a un dicton aussi, il est fou, qui dit Chaman la mousse. Ça veut dire, c'est l'homme qui a l'autorité.
Le plein pouvoir. C'est-à-dire que même s'il a tort, on nous éduque pour dire que même si l'homme a tort, il faut dire qu'il a raison. Même s'il a tort, il a toujours raison. Donc... Ça fait partie de l'éducation traditionnelle des filles et des femmes de l'IFU. C'est qu'elles ont le droit de rien, en fait. Quand elle est mariée, c'est l'homme qui a tous les pouvoirs. Après, s'il est gentil, il lui donnera plus de liberté ou plus de pouvoir de décision. Mais il peut très bien décider que c'est lui qui décide de tout, parce qu'il sait que la coutume et la religion sont de son côté. Et c'est pour ça qu'on en arrive parfois à des violences conjugales dans les familles, parce qu'il y a aussi beaucoup de fléaux, comme je pense partout dans beaucoup de sociétés. Et il y a notamment le fléau de l'alcoolisme, où les hommes s'adonnent un peu beaucoup, plus que les femmes, et même c'est plutôt les hommes, à l'alcoolisme, et ils reviennent sous à la maison. Et comme ils savent que la coutume cautionne tout ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils sont les hommes de la famille, Ils peuvent se permettre de battre leur femme, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, puisque on leur donnera toujours raison.
D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors ensemble, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, aucune pomme à l'inventaire, qui l'a volé, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne, il dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrit ses bols et soupières, faisait rien à la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Il faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, bah, ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent. J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas.
Tu disais qu'il y avait des violences conjugales assez fortes ici et que c'était assez bien toléré par la tribu.
Oui, ça veut dire que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le pouvoir des hommes. C'est que c'est une société qui donne beaucoup, c'est la coutume, elle donne toujours raison à l'homme, aux hommes de la tribu et aux hommes de l'île. Parce que on va toujours dire que c'est, comme tu disais tout à l'heure, Tchaman Lamou, ça veut dire c'est l'homme qui a le droit. Et donc s'il arrive, il est saoul, il veut, si la femme lui manque de respect ou si la femme lui ne veut pas faire ce que lui il veut, il peut battre sa femme, il peut être violent et personne ne va lui en vouloir, quoi. Il peut battre sa femme et après on va dire que ben c'est normal qu'elle soit battue, c'est sûrement qu'elle ne l'a pas écouté, par exemple. C'est le genre de réaction qui ont librement cours ici à l'IFO. C'est vrai que ça existe, c'est vrai aussi que les couples changent parce qu'il y a une certaine évolution aussi au niveau des couples. Les gens réfléchissent plus, les femmes sont un peu plus respectées parce qu'elles deviennent un peu plus indépendantes aussi économiquement, parce qu'elles rentrent dans le marché économique, elles ont des diplômes et puis elles ont un travail, donc ça contribue à leur donner un peu plus de pouvoir. Donc comme elle contribue aussi à la vie du couple et puis aux finances, tout ça dans le couple, elles arrivent à avoir un pouvoir de décision. Donc elles sont un peu plus respectées aussi par les hommes. Mmh. Voilà, c'est pour dire qu'en général, quand il y a des violences conjugales, salariées ou pas, la femme, on va toujours dire d'elle qu'elle n'a pas écouté son mari, que c'est sûrement pour ça qu'elle a été battue. Mmh. Voilà, et que s'il l'avait écouté, il n'aurait pas eu...
pas eu tous ses problèmes.
Voilà, n'aurait pas eu tous ses problèmes. Mmh. Voilà, c'est un peu comme ça que les gens raisonnent ici.
Et par exemple, une femme qui vit en tribu, donc qui cultive les champs de son mari, qui a, je sais pas, on va dire 5 enfants, qui appartiennent au clan de son mari, si son mari devient violent, elle a quoi comme solution pour affronter ce problème ?
Ben, ce qui est clair, c'est qu'elle aura moins de solutions que celle qui a un travail et qui peut se débrouiller financièrement sans son mari. Le problème de ces femmes-là, c'est qu'elles sont complètement dépendantes de leur mari. Et surtout quand elles ont plus de... Et c'est celles aussi qui ont le plus d'enfants, en général. Donc, après, elle réfléchit vite, hein, c'est vite réfléchi, parce qu'elle va se dire... elle va se retrouver seule, sans le mari, avec 5 enfants à nourrir. Elle va arriver chez ses parents, mais... elle sera un poids pour sa famille, sa propre famille, parce qu'elle va arriver avec 5 enfants. Donc, souvent, elles seront moins prêtes à partir, quoi, si elles subissent des violences. Ce seront ces femmes-là qui vont rester malgré tout dans un foyer violent, avec un mari violent, parce qu'elles n'ont pas trop le choix. Et souvent, quand elles se marient, et ça c'est les femmes en général, qu'elles soient salariées ou pas, enfin qu'elles soient dépendantes financièrement ou pas, quand elles se marient, on leur dit déjà que quand elles partent de la maison familiale, elles ne doivent plus jamais revenir sans l'accord de leur mari. Donc elles partent en pensant à ça. C'est pour ça que pendant les mariages, les femmes pleurent beaucoup parce qu'elles savent que c'est vraiment une rupture avec son enfance, sa maison, la maison de son enfance et sa propre famille. Donc, elle a peu de chance si elle est indépendante financièrement, parce qu'elle peut quitter le mari et se débrouiller toute seule, ni sans ses familles, ni sans sa propre famille, ni sans la famille de son mari ou sans son mari. Donc, c'est vrai que celles qui ont le moins de chance, ce sont celles qui ne sont pas indépendantes financièrement.
Et on lui en parle de ça aussi, des violences pendant le mariage.
On lui parle des violences pendant le mariage, on la prépare déjà, mais en lui disant clairement dans les discours coutumiers que si ton mari arrive saoul, eh ben, tu ne dis rien, tu lui prépares sa soupe. S'il te bat, ça arrivera, ça arrive, et ça arrive en général, eh ben, tu te sauves ou tu restes dans un coin, mais tu rentres pas à la maison. Et tu retournes toujours, il faut que tu reviennes, même si ton mari te bat, il faut que tu continues de rester chez toi parce que maintenant, la maison de ton mari, c'est ta maison. Et en plus, s'il y a des enfants, on va lui dire, il faut que tu penses aux enfants, il faut pas que tu t'en ailles, il faut que tu restes avec les enfants.
J'ai deux, trois trucs à te dire.
Vas-y, dis-moi.
Ouais, par rapport à ma copine qui est soi-disant ta femme.
Ouais, comment ça,
Ouais,
soi-disant? Ouais, c'est ma femme.
Ouais, c'est ta femme et tu la frappes.
Et alors, mais je la frappe, mais quoi? Tu viens ici pour me dire ça?
Ouais, je viens ici pour
tu
dire ça.
Tu crois que je sais pas que je la frappe, je la correctionne et alors?
Et tu crois que c'est bien?
Mais de quoi? C'est comme ça, je la frappe, c'est comme ça.
Quoi? C'est comme
tu
ça.
Tu sais ce qu'elle a fait?
Et alors?
Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait?
Et alors, toi, t'es un bonhomme, tu crois que tu sais bien de frapper une femme sans défense?
Sans défense?
Ouais, sans défense.
Sans défense? Sans défense, et alors?
Elles sont toutes les mêmes, mis à part ma mère et mes sœurs. Si j'étais un homme, je me dirais que le sexe faible, mes cœurs. Regarde ce qu'elles sont devenues, le cœur impur, les mœurs dégradent. L'image de la femme de prostitution et de sexe en cas. Si j'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos? En me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt. Qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, obstinés comme la MLF. Condamner cette gente à sa destinée. Est-ce que je viendrais sous-estimer celles qui se battent pour réussir? Qu'elles se fassent pas d'illusions sans passer sous un mec à coup sûr. Est-ce que j'interdirais à ma sœur de sortir le soir de peur qu'elle donne son cul ou finisse sur un trottoir? Est-ce que je parlerai d'embrouille pour prouver que j'ai des couilles? Et je serai le fier devant mes potes quand je raconterai que ma femme j'y mets des coups. Et plus je connais les femmes et plus c'est les chaînes que je découvre. Une meuf du move superficiel matérialiste qui me prouve. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. J'étais un homme, serais-je comme la plupart homophobes? Est-ce que je suivrais la vie de l'opinion publique comme une mode? Je me dirais que leur comportement est plus qu'incohérent. Devant un mec qui en aime un autre, je peux être qu'intolérant. Est-ce que être macho signifierait que je représente la virilité? Que le bac c'est ces conneries serait pour moi qu'une indignité. Est-ce que je serais à 100% contre celles qui veulent la parité? Qu'elles restent à leur place, leur place c'est d'être femme au foyer. Est-ce que je refuserais d'obéir aux ordres de ma supérieure? Sans réel prétexte, juste pour mes principes et mes valeurs. Est-ce que j'admirais ce mec parce qu'il enchaîne ta surcharge? Sur cette meuf qui fait la même, qui ne se regarde plus dans une. Aurais-je l'audace d'admettre que Princesse Agnès rappe mieux que moi? Ou je me dirais qu'elle a couché pour en arriver là?
Mais bien sûr, toutes les meufs couchent.
Mais vas-y, laisse tomber.
C'est le showbiz.
Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Lève ma main sur ma femme pour la mettre ensemble. Est-ce que je lui dirais que c'est elle qui me fait perdre la raison? Est-ce que je glorifierais avec mes potes de faire des tournantes? Est-ce que je dirais que c'est cette sale pute qui était consentante? Est-ce que je suis combré en soirée à cette meuf provocante? Jouer le mac et faire le canard avec ma femme dès que je rentre? Est-ce que je dirais que c'est belle et bien elle qui m'avait chauffé? Je suis pas coupable de viol et que c'est elle qu'on doit coffrer? Est-ce que j'aurais le trophée du beau gosse, du player? Et qu'en termes d'adultère, je serais fier d'être le meilleur? Est-ce que je lui dirais que je l'aime pour pouvoir la soulever? Quand elle me dira je suis enceinte, est-ce que plus qu'un va souvenir? Est-ce que je me dirais qu'avortement est assassinat d'un môme? Je remettrais en question après d'être père d'assumer ce rôle si j'étais un homme. Est-ce que je penserais que la femme n'est rien sans l'homme? Ou au contraire que la femme est l'avenir de l'homme? Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes.
C'est
aimer, souffrir, se dévouer, subir, subir. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire. aimer, souffrir, se dévouer, subir, subir.
C'est quelqu'un.
Vous venez d'écouter Princesse Agnès, Si j'étais un homme, sur Radio Kaleidoscope, dans Dégenré, l'émission féministe, les 2e et 4e mercredis du mois. Le morceau que vous avez entendu entre les deux plages d'interview était Dan Sylvestre, c'était Adam et Ève. Et du coup, ce soir, c'est une émission sur la condition des femmes kanaks. Et on va continuer d'écouter l'interview de Wally.
Toi, tu as choisi un peu une autre voie que te marier à Lifou, enfin, te marier avec un homme de Lifou, puis avec une famille de Lifou. Et ça change quoi d'être mariée avec ce qu'on considère ici un étranger, avec un Tahitien ?
Oui, ben là, j'ai pas tellement choisi, déjà, parce que je suis tombée amoureuse d'un homme et il s'est trouvé que c'était pas un homme de Lifou. C'était un homme de Tahitien, donc de Tahiti. Qui habite quand même à Nouméa et qui est métisse kanak, parce que sa maman elle est kanak. Mais comme il a un papa tahitien, c'est comme si c'est. Comme on disait, en général en Océanie, les enfants ils ont l'identité puis le nom de leur père. Donc c'est pour ça que je m'appelle Tetuanui au lieu de Wahicha, qui est mon nom de jeune fille. Et qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup, beaucoup de choses, parce que du coup, je ne rentre plus dans le circuit coutumier ordinaire. Que je connaissais quand j'étais jeune fille, puisque maintenant j'ai un autre statut. Déjà, je suis une femme mariée, donc j'accède à un autre statut. Et en plus, j'ai un mari étranger, on va dire, entre guillemets, qui n'est pas kanak, quoi, qui n'est pas de Lifou. Donc du coup, lui, comme normalement une femme doit suivre la coutume de son mari, donc moi, je suis plus de ma coutume. Je suis sa coutume à lui. Et lui, il n'a pas la coutume kanak, il n'a pas tout ça. Et en plus, il n'est pas à Tahiti, donc je n'ai pas vraiment de coutume à suivre. Donc, ce qui me donne une très grande liberté de mouvement, n'est-ce pas? Et qui peut me donner... ça me donne aussi beaucoup de recul par rapport à ce que vivent mes compatriotes, mes sœurs kanak. Je peux bien voir comment elles vivent, elles, celles qui sont kanak et qui vivent, qui sont mariées avec des garçons kanak et qui vivent à fond la coutume. Moi, j'ai le choix, elles, non. C'est-à-dire que moi, il y a toujours la coutume du côté de ma famille. Donc, je continue à y assister puisque j'ai le choix et je peux y aller. Mais si je n'y assiste pas, on ne m'en voudra pas, on ne m'en tiendra pas rigueur puisque j'appartiens normalement à une autre communauté maintenant. Donc j'ai quand même un certain privilège et je ne regrette pas finalement d'être tombée amoureuse d'un non-kanak.
Et aujourd'hui, à Lifou, les femmes ont quand même différentes conditions.
Il y a beaucoup de... Maintenant, beaucoup de choses ont changé. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la femme des femmes kanak dans la société traditionnelle avec les rôles de la femme, mère, épouse et tout. Mais maintenant, depuis quelques années, les femmes kanak, elles passent le bac, elles vont faire des études universitaires et elles se rendent compte de plus en plus. Et je pense que même au niveau des études, ça se ressent au niveau des pourcentages, au niveau des réussites au bac et tout, que les femmes kanak, en général, elles comprennent que ça peut être une issue pour elles et qu'elles peuvent accéder à un statut particulier par le fait qu'elles ont des diplômes et qu'elles peuvent avoir un travail. Déjà, on a parlé tout à l'heure de la dépendance financière si elles se marient et même si elles ne se marient pas, comme toutes les autres femmes d'ailleurs. Mais en même temps, le fait qu'elles soient diplômées, on les regarde autrement dans les tribus. On les regarde avec plus de respect. Et même si elles ne vont pas parler dans les réunions coutumières, dans les grandes cérémonies parce qu'elles n'ont pas le droit, quand elles vont dire des choses hors réunion coutumière, on va tenir compte de leurs idées. Et parfois, on va les consulter pour des conseils. En fait, elles acquièrent de la valeur, elles acquièrent du pouvoir, ou plutôt de la valeur. On les regarde autrement. Et ça, on le voit bien, on regardera autrement, dans les tribus, on regardera autrement une fille qui a des diplômes de celle qui n'en a pas. Mais on regardera, on accordera aussi de la valeur à une fille de la tribu qui n'a pas de diplôme, mais qui sait très bien travailler les champs. Et qui s'en sort aussi au niveau traditionnel, quoi, les tâches traditionnelles. Qui sait bien travailler au champ, qui sait bien assumer les tâches de la tribu. Mais on va pardonner à la fille qui arrive, qui fait des études, qui ne sait rien faire au champ, par exemple, qui ne sait pas travailler à la tribu, mais qui a des diplômes. On va la pardonner parce qu'elle a des diplômes.
Et tu disais que tu voyais que les mentalités des femmes changeaient récemment, mais que les mentalités des hommes, pas tellement.
Oui, je me dis que ben, les femmes, comme elles se rendent compte de tout ça, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais elles se rendent compte qu'elles ont... Elles ont plus de pouvoir, elles ont plus d'indépendance, plus de liberté. On se disait une fois avec des sœurs d'ici qu'on est obligé d'acheter notre liberté. Grâce à notre travail, grâce au diplôme et puis au travail qu'on a par la suite, on participe beaucoup financièrement dans les coutumes et puis dans les familles, dans les foyers, dans nos foyers à nous, quand on est jeune fille même. Et ça nous donne beaucoup de liberté. Les parents et les familles, au lieu de nous garder tout le temps à la maison, comme on participe beaucoup financièrement, on nous laisse faire ce qu'on veut. Donc, on achète en quelque sorte notre liberté. Donc, il y a cette mentalité qui arrive petit à petit. On se rend compte que les filles, elles réussissent bien dans les études. Et c'est normal parce que c'est une très belle issue pour elles. Les garçons, eux, comme de toute façon, ils sont propriétaires terriens dès le départ et qu'ils sont déjà... soit chef, soit chef de clan, soit petit chef, soit sujet, soit... Ils ont déjà leur statut en tant qu'hommes dans la tribu. Ils savent que même s'ils ne réussissent pas leurs études, de toute façon, ils seront respectés, ils auront leur place à part entière dans la tribu et dans le clan. Donc, parfois, ils sont moins motivés. Moi, je le remarque dans ma propre famille, les filles, elles ont fait plus d'études et elles ont plus de diplômes que nos frères.
Et est-ce que tu vois que la répartition des tâches dans la famille, elle change quand les femmes ont du travail? Les femmes cumulent le travail et leur rôle traditionnel?
Ben je pense qu'elles, quand elles sont, et surtout quand elles se marient avec des hommes de l'Ifou même, des Kanaks, elles cumulent. Et je pense que dans un certain sens, c'est encore plus difficile pour elles maintenant qu'avant. Maintenant qu'elles ont un travail, qu'elles doivent gérer les horaires, qu'elles doivent gérer la scolarité des enfants, et puis elles ont encore plus de choses à gérer qu'avant. Parce qu'il faut qu'elles assurent au travail, qu'elles soient à l'heure et qu'elles soient compétentes professionnellement. Mais en même temps, on continue d'exiger d'elles que la maison soit bien tenue, que les enfants soient bien éduqués, que son rôle, que les bougnas soient bien faits, que les champs soient bien faits. Qu'elle soit là pour les tâches au niveau des mariages coutumiers qui sont très prenants au niveau des tâches, quoi. Des tâches des femmes, notamment. Donc, elles doivent gérer encore plus de choses qu'avant. Et elle est obligée de tout assumer si elle veut continuer à garder ce statut de femme qui a son foyer à tenir, sa coutume à assumer et en même temps... son rôle professionnel.
En fait, toi, tu penses qu'il n'y a pas tellement de... Comment dire? Que les femmes se dirigent plutôt vers les études et un travail salarié plutôt que vers des groupes de femmes ou des mouvements féministes pour acquérir plus de liberté?
Ben, je pense que c'est plutôt au niveau des études. Parce que les mouvements de femmes féministes, je n'en connais pas beaucoup à l'IFU. Il y en a?
Je crois pas.
Voilà. Et en plus, les groupes de femmes, c'est très religieux et très traditionnaliste. Traditionnaliste, on dit? Donc, groupe de femmes, ça change pas de la coutume, hein, c'est pire même. Hein, il faut pas que tu te mettes en pantalon, il faut que tu sois un peu piné, il faut que... Donc, vraiment, pour avoir une vraie liberté et une vraie indépendance, il faut c'est les études d'abord. Et même, il y a des jeunes filles qui n'ont pas fait d'études, mais qui vont aller sur Nouméa, qui vont aller dans la capitale de l'Ifou, à Wé, pour essayer de trouver du travail de femme de service ou caissière ou quoi que ce soit. Et rien que pour avoir une indépendance financière et avoir un peu plus de liberté. Mais c'est sûr que, comme je disais, quand elle se remarie dans une famille kanak, elle a en plus son rôle de femme kanak, épouse kanak et mère kanak à assumer.
Mais on voit aussi que maintenant, par rapport à la génération des mamans, même des grands-mères, que maintenant des femmes aussi contestent leur situation conjugale, divorcent ou même font appel à la police en cas de violence.
Mmh. Maintenant, ça y est, ça commence à venir aussi. C'est toujours dans cette même esprit des choses qui évoluent avec les temps modernes, la modernisation et tout. Elles se rendent compte qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent avoir recours à un tribunal quand il y a des violences, qu'elles peuvent divorcer si elles veulent, même si c'est très difficile de divorcer, parce qu'il faut l'accord, comme elles se marient coutumièrement en général, il faut l'accord du conseil coutumier, du grand chef, il faut l'accord comme en général elles se marient aussi religieusement, il faut l'accord aussi du conseil religieux. Donc c'est très difficile, mais il y en a qui le font, il y en a qui divorcent. Et il y a aussi le plus dur, je pense, c'est toute la pression de toute l'île, de toute sa famille. Et quand on parle de famille, c'est pas la famille, le noyau, là, c'est presque toute la tribu. Et toute l'île même, qui va mettre la pression pour pas qu'elle divorce. Parce qu'une femme, ça ne divorce pas, ça ne quitte pas son mari, ça doit rester, assumer son devoir, même si c'est difficile. Parce que quand on se marie pour le pire, ben c'est ça le pire, il faut rester, même si on en bat, même si... Donc, elle va toujours... celle qui arrive vraiment à divorcer, c'est qu'elles ont vraiment beaucoup de courage, quoi. D'affronter toute la pression sociale, coutumière, religieuse. Mais ça arrive.
Ouais. C'est souvent dans des cas extrêmes où elles ont failli mourir.
Voilà, quand c'est des cas extrêmes, même quand c'est des cas extrêmes, on va toujours... au début, ça a l'air très grave, mais après, avec le temps, on va essayer de minimiser quand le mari a vraiment eu des réactions très, très violentes. On va toujours lui trouver des circonstances atténuantes, en général. Après, il y a des cas où vraiment le divorce est facile à prononcer, la femme s'en va facilement, sa famille est de son côté. Mais en général, on va trouver des circonstances atténuantes au mari et convaincre la femme que non, elle doit quand même rester parce que là, c'était juste...
Il était sous,
ou enfin, on va toujours lui trouver des prétextes.
Ou emboucané aussi.
Ou emboucané, qui est aussi une des raisons qu'on évoque toujours à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est qu'on dit qu'on lui a donné ou on lui a lancé un boucan. Comme si gris-gris ou... Je sais pas, c'est une superstition qui existe ici à l'Ifou et dans toute la Kanaky. Quand il y a quelqu'un qui tombe malade ou quand il y a un couple qui va mal, le mari qui boit trop, au lieu de chercher des solutions ou de voir les choses en face, on va dire « Ah, mais il a sûrement été emboucané par un tel ou un tel. » C'est-à-dire que quelqu'un lui a jeté un mauvais sort et c'est pour ça qu'il est tout le temps saoul, qu'il n'assume pas ses devoirs. Donc, quand il y a des problèmes dans le couple, souvent, on va dire à la femme, mais tu vois, il faut que tu lui pardonnes parce que peut-être qu'il a été emboucané ou peut-être que c'est à cause de l'alcool. Et du coup, les problèmes ont beaucoup de mal à se résoudre parce que comme tout ça, ça cautionne un peu l'alcoolisme, ça cautionne un peu la bêtise humaine, quoi. Parce qu'on va toujours trouver des circonstances atténuantes et puis des raisons.
Ne m'appelle pas ta biche, ne m'appelle pas ta pouliche, ta copine, ta coquine, ta petite bite à la...
On a dépeint un tableau pas très rose là, mais malgré ces choses difficiles, toi ça t'empêche pas de d'aimer ton pays et de vouloir l'indépendance.
Oui, parce que quand on parle, parce qu'on a parlé essentiellement de la condition féminine, de la condition des femmes en Nouvelle-Calédonie et notamment en Kanaky, chez les Kanaks. Et ben, on sait que la société Kanak, c'est une société patriarcale. Donc souvent la femme elle n'a pas de statut, comme on vient de développer. Donc pour une femme comme moi qui... Pardon, je parle peut-être pas assez fort. Donc je constate quand même que par rapport à la condition des hommes, notre condition à nous, les femmes Kanak, elle est pas très rose. Mais comme tu dis, ça ne m'empêche pas d'aimer ma culture parce que je suis profondément Kanak et quand on est profondément Kanak, on est fier de l'être. Donc je suis fière quand même de ma coutume, de la coutume de mon pays, de savoir que mon pays a une coutume, c'est-à-dire des règles de vie, des règles de des relations entre les gens et puis des façons de se comporter. Et j'aime bien la façon de notre façon de comporter envers les vieux, par exemple, de notre société, de savoir de vraiment prendre conscience de leur importance et de se dire que ce sont des éléments importants de notre société. Donc pour moi, ils sont importants et je les respecte. C'est-à-dire que je les écoute et puis j'aime m'en occuper. Je ne veux pas qu'ils soient dans des asiles ou de pourvillards, par exemple. Donc ça, c'est un trait de la pas que des Kanaks, mais de toute l'Océanie. Il y a ça. Et puis, la coutume que je respecte aussi. Je suis directrice d'une petite école, mais quand on vient dans une cérémonie coutumière, je sais que je ne prendrai pas la parole. Parce que je sais qu'il y a des espaces qui me sont réservés où je prendrai la parole. C'est-à-dire, quand je suis dans mon école ou dans avec des gens de ma profession, dans des conférences, dans des réunions, je la prends facilement, sans me demander s'il y a des chefs ou des. Même s'il y a des chefs ou des Kanaks dans la salle, je sais que j'ai le droit parce que je suis dans un autre espace. Mais quand je suis dans un espace coutumier, et comme je suis profondément Kanak, je sais que j'ai pas à la prendre. Donc c'est vrai que je suis entre deux eaux quoi. Je me rends compte qu'on n'a pas le pouvoir et que la condition des femmes Kanak n'est pas rose, mais en même temps je me rends compte que c'est pas encore le moment pour moi de m'imposer, de prendre la parole. Peut-être qu'un jour ça arrivera et je perds pas espoir. Je crois qu'un jour les nouvelles générations, là il y a beaucoup de choses qu'elles vont remettre en cause, et puis moi je serai peut-être dedans aussi dans cette lutte vers une émancipation plus affirmée des femmes Kanak. Voilà, donc c'est pour dire que moi je suis très heureuse d'être à l'IFU, d'être une Kanak, de respecter la coutume. Je suis fière aussi d'être française parce que la France nous a quand même apporté beaucoup de choses. Le fait qu'on soit français, ben, on s'ouvre facilement aussi à l'Europe et puis au reste du monde. Et puis d'appartenir à ce groupe ethnique, d'appartenir à l'Océanie, voilà.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Ali.
De rien, Hélène.
Medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no...
Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió.
Vous êtes toujours sur Dégenrés, c'est la fin de notre émission. Voilà, alors moi j'avais juste un petit truc à dire pour conclure, c'est que là, bon, moi j'étais quelques mois en Kanaky et je viens de revenir et que je trouve vraiment de plus en plus important qu'il y ait des féministes et du féminisme dans une société, parce que c'est quand même vraiment pour moi et je pense pour les femmes dur de vivre dans une société où il n'y a pas de féminisme, quoi. Voilà, alors pour moi, je suis très contente de faire cette émission, justement, en revenant et de me dire, il faut que ces mouvements continuent. Et on voulait parler aussi d'autres choses ce soir avant la fin. C'est qu'on pense très fort, en fait, à des gens là qui sont en train de passer en procès pour avoir manifesté contre Minatech en juin dernier. Et voilà, ils sont jugés ce soir. Et si vous voulez vite les rejoindre au tribunal, c'est encore possible. Et voilà, on espère qu'il ne va pas y avoir de peine trop lourde, parce qu'on peut risquer de la prison ferme pour avoir insulté un policier ou pour s'être débattu quand on est arrêté à coup de matraque. Voilà, on pense à eux. Et il y a aussi une autre dédicace.
Ouais, c'était avant de se quitter, donc la prochaine émission sera dans 15 jours et sera des paroles autour de l'avortement. Et donc c'était pour le morceau de fin, sera le fusil dans l'étui de Kazek, que peut-être vous avez déjà écouté sur Dégenrés, mais c'est pas grave parce qu'il est vraiment bien. Et du coup c'était une spéciale dédicace vraiment à Actis, donc aux pourritures de dirigeants d'Actis, plus exactement, qui est le principal bailleur de logements soi-disant sociaux sur Grenoble, et qui est une sorte de spécialité dans l'expulsion, que ce soit l'hiver comme l'été, toujours sous prétexte de construction de logements sociaux, alors qu'en réalité, eh ben, il laisse pourrir des bâtiments, que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, comme on a pu le voir sur différents squats à Grenoble. Que aussi ils n'hésitent pas à expulser des locataires, et je pense qu'ils le feraient avec bon cœur en hiver si la loi sur la trêve hivernale, ne leur interdisez pas. Une de leurs autres méthodes, c'est aussi de faire couper les allocations de logement, par exemple, pour trop de retard de loyer, ce qui est quand même assez contradictoire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller dire à Actis tout ce que vous pensez de leur politique par tout moyen que ce soit.
Voilà, parce qu'ils ont quand même coupé l'électricité aujourd'hui à une amie. Et voilà, en plein hiver, c'est super.
Voilà, et donc ce morceau pour tous les gens qui des fois ont envie de sortir leur fusil, eh bien, à dans 15 jours. Bonsoir.
Sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche. Je rêve de revanche en semaine et le dimanche. Je traîne en zone franche où l'indigène flanche, où le système se penche sur les peaux blanches. Lèche les plus riches, prêche les bacchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent. Ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides. Le décor du nord et puis des caïdes sans remords aucun et que la fièvre de l'or guide. Des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide. Des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide. J'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand il projette de mettre en place l'apartheid. Quand ma tête à l'écart et la cause qu'il plaide, quand il nous brime, nous rejette et puis nous dépossède. Et mes tours sont laides, mon parcours est raide. J'suis à bout, abîmé, nomade et sans remède. J'ai de la haine en trop, refuse l'entraide. Je ne demande ni au ni offrande ni aide. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours je gère et endure insultes, lutte, chute, échec et injures. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir. Choisir au hasard un boulot à saisir et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors moi je sors et m'emmerde à mort. Je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses abords et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts, sans effort se sauvent avant les renforts. La casse et le Delbord, ma race et mon folklore. La crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière. Aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère? Faire du son, du sport. La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure. N'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur. Joue ma vie au baltrap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte. Et il en résulte mes raisons de prendre le colt, au vu de ce que je récolte. La crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, doute et déroute. Une sale vie d'adulte que seul le sang exalte et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte et sa suinte. La crainte, les pleurs et les plaintes, les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte, les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente, l'achat et la vente et les rêves qu'on s'invente, les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque. Quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans les tuiles. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Gazette en Falsch 2005.